nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Clément Moutier.
Canal Académie vous propose de continuer à découvrir les métiers du Muséum National d'Histoire Naturelle avec une nouvelle émission en compagnie d'Antoine Balzo, qui est paléo-anthropologue. Monsieur Balzo, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes chercheur au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle, et plus exactement au sein du service d'Histoire Naturelle de l'Homme Préhistorique. Pourriez-vous tout d'abord nous décrire, Antoine Balzo, ce qu'est un paléo-anthropologue ?
Je peux vous décrire, oui, en quelques mots ce qu'on fait, parce que ce qu'est un paléanthropologue, on est varié. Nous sommes plein sur Terre, avec quelques personnes célèbres comme Yves Coppens. Le paléanthropologue, assez clairement, justement, étudie l'évolution humaine. L'idée, c'est d'analyser l'anatomie des hommes du passé pour essayer de comprendre à la fois qui ils étaient et comment ils vivaient.
Et alors, pour arriver à intégrer le Muséum National d'Histoire Naturelle, quel a été votre parcours scolaire ?
Eh bien, moi, j'ai suivi un processus assez classique dans l'absolu. J'ai fait une formation universitaire de géologie et de paléontologie, parce que dès le début, ce qui m'intéressait, c'était cet aspect-là, étudier les choses du passé. Depuis tout petit, je ramassais des fossiles. Donc, un cursus universitaire à Poitiers, puis au muséum, j'ai fait un master de préhistoire, une thèse d'anthropologie au muséum, où là, je me suis vraiment spécialisé dans l'évolution de l'homme et dans l'étude de l'anatomie des spécimens fossiles. Et puis après, là aussi un processus assez classique de multiples post-docs avant d'avoir la chance d'obtenir un poste au CNRS et de retourner d'ailleurs dans l'UMR où j'ai été pour ma thèse et où je suis toujours, au muséum.
Et donc dans cette UMR, dans cette section, pour parler clairement à nos auditeurs, dans cette section, vous étudiez particulièrement les crânes, c'est ça ?
Oui, moi j'ai une petite particularité dans les méthodes que j'utilise. Mon intérêt, en effet, c'est plutôt le crâne, parce qu'on ne peut pas connaître l'anatomie de tout, et tout vraiment détaillé. Mais ce que j'aime faire, moi, c'est utiliser les méthodes d'imagerie pour essayer de documenter, d'observer tout ce qui est caché à l'intérieur des spécimens. Et typiquement, en paléoanthropologie, c'est un domaine où ça apporte beaucoup de choses, parce qu'on a des objets, souvent des restes crâniens, plus ou moins complets, qui sont très rares, très fragiles, qu'on conserve précieusement et qu'on étudie avec beaucoup de précautions. Donc là, l'intérêt de l'application des méthodes d'imagerie, c'est qu'on a un objet qu'on décrivait auparavant, qu'on mesurait pour tout ce qui était extérieur. On essayait de voir par les orifices, par les cassures, tout ce qui pouvait être dedans, mais ça restait assez délicat et superficiel. Là, l'imagerie, nous offre accès à tout ce qui est caché à l'intérieur, tout ce qu'on pouvait pas voir, complètement logé à l'intérieur du spécimen, et même des choses cachées dans les structures osseuses, l'épaisseur du crâne qui est composée de plusieurs couches, les bulles d'air qui est à l'intérieur de notre crâne, l'intérieur des dents, tout ça sont des caractères en plus qu'on arrive à observer et qu'on ne connaissait pas du tout avant.
Et tous ces caractères vous permettent quoi alors, de sortir des nouvelles évolutions, de découvrir de nouvelles particularités sur les Homo sapiens par exemple ?
Vraiment, l'objectif, c'est de documenter la variabilité, comprendre l'anatomie des spécimens. Clairement, là, on passe d'objets qu'on arrivait à caractériser pour leur surface externe, on avait un certain nombre d'informations, et là, on rajoute en plus tout un ensemble de données internes qui étaient totalement inconnues, donc on multiplie peut-être par deux le nombre d'informations qu'on avait, et d'un seul coup, on sait deux fois plus de choses sur l'anatomie des Néandertaliens, des Homo sapiens, des Homo erectus, ce qui permet d'aller beaucoup plus loin dans notre compréhension de leur morphologie et donc aussi de leurs relations les uns par rapport aux autres, de leur évolution et puis aussi de leur comportement.
Par exemple, il y a une découverte pour laquelle vous êtes particulièrement fier ou une découverte que vous avez faite récemment ?
Oh, fier, c'est un grand mot. Découverte, grâce à l'imagerie, j'ai pu documenter un certain nombre de choses. Vraiment, dans mes travaux de recherche, j'essaye de prendre deux pistes un petit peu différentes. La première, c'est d'étudier des caractères qu'on connaît depuis longtemps, mais qu'on connaissait pas forcément très bien, qui avait été décrit, mais qu'on n'avait jamais pu mesurer totalement dans le détail. Et il y a beaucoup de caractères comme ça, où quand on avait trouvé les premiers fossiles d'une espèce, il y a 50 ou 100 ans, on s'était dit, tiens, ce fossile-là, il est plus épais, plus grand là, plus gros que les autres, mais sans pouvoir vraiment le mesurer, parce que souvent, c'était des choses un petit peu internes, en particulier l'épaisseur de l'os ou sa constitution, les trois couches d'os du crâne, comment elles étaient disposées les unes par rapport aux autres. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu faire, d'essayer de réanalyser des caractères qui nous semblaient évidents, qui étaient acceptés comme caractéristiques en particulier des Homo erectus, mais qu'on n'avait jamais vraiment pu étudier. Et donc là, avec l'imagerie, ben, il y en a plusieurs, comme ça, que j'ai pu réétudier complètement. C'est un peu technique, c'est la position de l'ignon par rapport à l'endignon, c'est en fait la forme de l'arrière de l'os occipital, l'os qui est à l'arrière du crâne, et c'est à disposition de la surface qui est près du cerveau par rapport à celle qui est à l'extérieur du crâne. Ça, c'était un caractère qu'on avait toujours décrit comme typique d'Homo erectus, avec une position particulière, mais qu'on n'avait jamais pu mesurer. Et là, avec des méthodes d'imagerie, on a pu le mesurer. Et forcément, quand on mesure des choses, en plus sur plus de fossiles, parce qu'on a trouvé beaucoup de fossiles depuis, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué. Et comme ça, j'ai pu remettre en question certains caractères qui étaient proposés comme propres à l'espèce Homo erectus. À l'inverse, dans les trouvailles un petit peu originales, parce que ça arrive, en fait, c'est assez facile de démontrer que les prédécesseurs se sont trompés, ont simplifié quelque chose, ont eu un message trop global, puisqu'il suffit de mesurer plus de crâne, de le faire de manière un peu plus scientifique, un peu plus robuste, et on trouve que c'est plus compliqué, qu'il s'était trompé. Il y a un cas au moins où c'est l'inverse qui est arrivé, on a réussi à démontrer un vrai caractère dérivé. C'est chez les Néandertaliens où on a étudié une dépression à l'arrière du crâne qu'on appelle la fosse Susignac, qui sert probablement à rien, hormis le fait qu'il y a une zone creuse sur l'arrière du crâne des Néandertaliens. Et on se demandait si c'était la même chose qu'on observait parfois chez d'autres espèces d'hommes préhistoriques. Et là, avec l'imagerie, on a pu voir la structure osseuse sous cette dépression et observer que quand il y avait ce caractère-là chez des Homo sapiens ou d'autres espèces, c'était uniquement lié aux insertions musculaires de la nuque, tous les muscles qui viennent se coller à l'arrière de notre crâne, qui déprimaient l'os, qui faisaient des contraintes fonctionnelles, qui faisaient une petite dépression. Or, chez les Néandertaliens, dans cette zone-là, il n'y a pas de muscles. Et en plus, c'est la couche interne de l'os qui est affectée. C'est pas l'extérieur qui se déprime, c'est vraiment une structure qui se forme avec la constitution de l'os et qu'on a observé en plus chez des très jeunes enfants, chez des adultes, de la même manière. Donc, pour une fois, on était capable de démontrer qu'un caractère était vraiment propre à une seule espèce humaine. Et ça, ça arrive pas très souvent.
Et jamais vous n'étudiez des crânes d'hommes modernes?
Si, bien sûr, à la fois pour avoir aussi des comparaisons, parce qu'on étudie quelques spécimens fossiles, souvent très fragmentaires, et pour certaines espèces, on n'a qu'un spécimen. Australopithecus cœliba, qui vient d'être décrit, c'est en particulier un jeune adulte ou un vieil enfant avec un crâne, et c'est le seul crâne qu'on ait. Pareil pour l'homme de Flores, on n'a qu'un seul crâne. Donc évidemment, quand on étudie un spécimen, on est limité par le matériel qui est disponible. Il faut aussi comparer ces choses-là avec ce qu'on connaît un peu mieux, c'est-à-dire la variabilité humaine des Homo sapiens, et puis aussi travailler sur des groupes de comparaison, des groupes parallèles, comme les grands singes, chimpanzés, bonobos, orang-outans.
Alors on imagine que votre bureau, en tout cas les locaux qui vous sont attribués au Muséum National d'Histoire Naturelle, doivent être remplis de squelettes et de crânes.
Oui, j'en ai pas partout dans mon bureau propre, heureusement. Mais il se trouve qu'au muséum, on a la chance d'avoir une collection de restes humains, fossiles ou plus ou moins récents, qui est parmi les plus importantes et les plus riches au monde, pour plein de raisons qui résultent de la longue histoire du Muséum National d'Histoire Naturelle, qui existe depuis plusieurs siècles, et puis du fait que le muséum a toujours eu vocation à faire des missions à travers le monde, et qu'il y a quelques siècles, quand on faisait des missions, ça concernait aussi l'étude de la variabilité humaine. Donc c'est vrai qu'on a des collections très très riches et puis aussi beaucoup de spécimens fossiles. Pas mal de Néandertaliens célèbres et importants qui sont conservés dans nos collections.
Et alors Antoine Balzo, concrètement quel est le cheminement, quel est le chemin que parcourt un fossile quand il y a une découverte? Est-ce qu'on vous appelle en vous disant « ça peut vous intéresser » ou bien est-ce que vous, vous vous déplacez sur le terrain des fouilles?
C'est un petit peu différent de ça parce que les restes humains, ça reste quelque chose d'exceptionnel. Une découverte de fossiles humains. On trouve souvent des restes assez récents qui correspondent à des anciens cimetières, parfois à des époques plus anciennes qui ont quelques centaines ou quelques milliers d'années. Mais ça, ça reste des collections qui sont intéressantes et importantes, mais qui ne sont pas étudiées dans le détail comme on va le faire avec un tout petit bout d'Homo erectus parce qu'on en a très très peu. Les découvertes de fossiles plus anciens, en Europe en tout cas, la plupart, très souvent, ça va se faire dans des contextes de fouilles programmées et volontaires. Un chantier de fouilles où on sait qu'on a des couches qui sont anciennes Et des chercheurs vont monter tout un projet, tout un programme pour le faire au fur et à mesure avec beaucoup de détails. Et donc, on se doute qu'on a une chance de trouver dans ce cadre-là des fossiles et après on les étudie. À l'inverse, il y a d'autres régions sur Terre où c'est un petit peu plus par hasard. Par exemple, notre équipe, on travaille beaucoup avec l'Indonésie où ont été découverts énormément de fossiles humains parce que cette île a une particularité, plusieurs particularités, celle de ne pas toujours avoir été une île parce qu'au cours du temps, elle a été parfois reliée au continent pendant les périodes glaciaires dans certaines régions où il faisait plus froid et ben dans les régions où il faisait plus chaud, une période glaciaire, ça devient une époque où les mers vont être plus basses. Et donc, par exemple, pour l'Indonésie, on pouvait passer à pied sur ce qu'est l'île de Java aujourd'hui. Et donc, sur cette île, il y a cette particularité donc de passage humain à pied possible au cours du temps. Et puis, il y a le fait que cette île correspond à des dépôts qui sont à la fois volcaniques et de rivières, mais dans un environnement merveilleux pour des préhistoriens ou des paléoanthropologues, c'est qu'il y avait des rivières énormes qui érodaient de manière très intense des volcans énormes. Ce qui veut dire que ça produisait beaucoup, beaucoup de sédiments. Et en plus, avec les restes volcaniques dedans, ça permet de dater assez bien les sédiments. Donc, on a des couches géologiques qui font des dizaines ou des centaines de mètres où on peut trouver dedans plein de fossiles parce que la rivière passant, elle embarque tous les restes d'animaux ou d'hommes de l'époque qui pouvaient être par là, les enterre très vite et donc permet la conservation de fossiles. La limite, évidemment, c'est que vu que les dépôts font des dizaines ou des centaines de mètres d'épaisseur pour des périodes de temps assez restreintes, et qui s'étendent sur des centaines de kilomètres carrés, eh ben on peut pas faire de vraies fouilles comme on les fait en Europe, au pinceau et centimètre par centimètre. Et donc, les découvertes, elles sont faites souvent par les paysans qui sont en train de travailler dans leur champ et qui, dans leur champ, remuent la terre qui est en dessous et qui correspond à des couches qui ont 1 million d'années et de temps en temps, trouvent un bout de fossile humain qui nous apporte après.
Et alors justement, ces découvertes, est-ce qu'il n'y a pas un jour, il y aura une fin où on aura tout découvert et vous serez en manque d'études ?
Non, pour deux raisons certaines. Déjà, c'est qu'il n'y a pas assez de paléoanthropologues sur Terre pour déjà étudier tout ce qu'on peut découvrir. Donc, ça nous laisse beaucoup de travail. Et par ailleurs, parce que on travaille sur un groupe animal qui est assez petit en nombre. Surtout au moment où il y a des grandes migrations qui se sont faites. Il y a à peu près 2 à 2,5 millions d'années, les premiers hommes sont sortis d'Afrique avant ils ne vivaient qu'en Afrique. Les premiers hommes bipèdes sont apparus en Afrique il y a peut-être 7 millions d'années. Mais voilà, à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, une apparition, des migrations, des nouvelles espèces, ça concerne des populations si petites que la probabilité déjà qu'on les ait trouvées est très très faible. Donc on ait trouvé tous les groupes humains ou toutes les espèces qui ont pu se déplacer dans ces périodes-là sur des continents gigantesques est vraiment très très faible. Donc il y a vraiment des potentiels énormes de découvertes à faire. Surtout que l'histoire nous montre bien qu'à chaque fois qu'on pense avoir fait le tour, que c'est évident, qu'on connaît bien l'évolution de l'homme, ça se complique assez vite avec de nouvelles découvertes.
Et tant mieux d'ailleurs.
Oui, et ça démontre surtout qu'on est loin de vraiment bien connaître l'évolution de l'homme, puisque justement à chaque fois qu'on rajoute des nouvelles découvertes, ça complique la vision qu'on en a. On se rend bien compte que ça s'est passé dans d'autres régions que ce qu'on croyait, avant de l'époque où on pensait que ça s'était passé, ou après, enfin voilà. Chaque fois, c'est un peu plus compliqué.
Vous parliez précédemment justement de l'imagerie qui est nécessaire à vos études, et il y a au Muséum National d'Histoire Naturelle le fameux scanner Astérix, dont je crois que vous êtes co-responsable de cette plateforme.
Voilà, c'est une plateforme dédiée à l'imagerie qui contient un microtomographe, un scanner, mais qui a des capacités assez importantes puisqu'on est capable de numériser des choses extrêmement petites, de l'ordre du millimètre avec une résolution qui va être, dans certains cas, inférieure à 1 micron, jusqu'à des spécimens qui peuvent faire 50, 60, 70 centimètres et peser plusieurs dizaines de kilos. Donc vraiment un champ d'application qui est très très grand parce qu'on a un microtomographe avec des capacités techniques très compliqué, très large, un champ d'application très très large. En fait, globalement, on a un équipement qui est probablement le meilleur qui est dans un musée actuellement au monde pour étudier les sciences naturelles, ce qui nous permet, en particulier au muséum où on a des disciplines très très variées, des champs d'études extrêmement larges, de pouvoir appliquer notre équipement et ses méthodes d'imagerie sur presque tout. On a déjà passé un jeune manchot entier dans le tomographe, des petits foraminifères qui font quelques millimètres qu'on voit pas à l'œil nu et pourtant on arrive à avoir de beaux résultats, ou des météorites grosses comme le poing qu'on arrive quand même à imager malgré leur forte densité.
Et vous, par exemple, quand vous insérez un crâne au sein de la plateforme Astérix, comment ça se passe? Après, vous avez une découpe en 3D, une visite virtuelle de l'intérieur du crâne?
L'imagerie, en fait, nous permet de produire un ensemble de radiographies qui est un vrai volume 3D radiographique, qu'on va pouvoir après recouper dans le sens où on voudra pour obtenir des coupes virtuelles d'un objet qui nous permettent d'observer et de décrire n'importe quelle zone à l'intérieur d'un objet. Le grand intérêt de ces coupes-là, c'est que les couleurs qui sont montrées sur les coupes correspondent aux variations de densité, au vide, au creux, aux différents tissus qu'il y a à l'intérieur d'un objet. Ce qui fait qu'on va être comme ça capable d'observer et puis de mesurer et de reconstruire même en trois dimensions des structures cachées à l'intérieur des objets. On pourra, par exemple, reconstruire en trois dimensions les pépins ou les graines à l'intérieur d'un fruit, reconstruire les sinus à l'intérieur d'un crâne, tout ce qui est vraiment caché à l'intérieur, le reconstituer en trois dimensions et pouvoir l'observer après sur l'écran de l'ordinateur.
Il y a également un projet auquel vous avez participé, c'est la reconstitution de l'homme de Spie, un néandertalien. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, parce que ce projet est presque artistique, vous vous êtes occupé donc vous de la partie crânienne?
C'était un projet double en fait, à la fois très scientifique et puis tout à fait artistique. L'objectif final était d'avoir une reconstitution la plus réaliste possible d'un néandertalien pour la mettre dans le musée qui s'est ouvert à côté du site de Spie où ont été trouvés à la fin du 19e siècle des fossiles néandertaliens très très bien conservés. La partie scientifique du projet, c'est que nous voulions que la reconstitution soit la plus réaliste possible dans le sens où nous voulions faire une reconstitution d'un individu particulier, pas faire une chimère. Jusque-là, les néandertaliens reconstitués que l'on a, ce sont pour les squelettes des assemblages de différents spécimens. Le tibia de la Ferracie, le fémur de la Chapelle, on met tout à la même échelle, on tasse un petit peu, quand les côtes sont trop grandes, on les rabote et on reconstitue comme ça un squelette. Il y en a un très très bien qui a été fait, très joli, mais qui est comme ça fait de briques et de brocs de plein de spécimens différents. Là, ce qu'on voulait vraiment, c'était prendre le spécimen le plus complet de Spie, qui a un fémur, un tibia, un bout de bassin, un crâne, différentes parties du squelette, mais pas tout, et essayer de le reconstituer, lui, avoir la vraie forme de ce spécimen-là. Le processus qu'on a suivi, c'est que chaque partie manquante, on essayait de voir chez un autre néandertalien, elle existait, mais pour pouvoir bien coller à la morphologie de notre premier spécimen, on essayait de mettre aussi en forme des parties communes. Par exemple, si on avait les deux fémurs, mais qui manquait le tibia sur notre spie, on faisait une transformation de forme d'un fémur sur l'autre et on appliquait après la transformation de forme du tibia vers le tibia qui n'existait pas pour spie. Comme ça, on arrivait à recompléter les différents morceaux du squelette pour essayer d'avoir une forme vraiment similaire au vrai spécimen. Moi, en particulier, je me suis occupé du crâne. C'était pas le plus compliqué parce qu'il manquait pas grand-chose. Il manquait une partie de la face qui a été prise sur un autre spécimen et puis mise à la bonne échelle, à la bonne forme pour bien coller sur le crâne. Ça a été beaucoup plus compliqué pour d'autres parties. Mais le vrai intérêt, c'est qu'au final, on avait un spécimen avec des proportions, une forme, une anatomie qui correspond au mieux de ce qu'on peut connaître pour ce spécimen-là. Et juste pour ce spécimen-là, plutôt qu'un mélange de plein d'individus. Et puis la deuxième étape, donc on a ce squelette-là qui est intéressant, qui scientifiquement nous apporte des informations. Évidemment, c'est qu'une reconstitution. On ne peut pas le considérer comme l'individu réellement, mais ça nous apporte des informations sur les proportions de forme du corps. Et ça donne des indications différentes de ce qu'on supposait à partir de plein de spécimens séparés, en fait. Donc ça, c'est assez important. Et puis la seconde étape, c'était la représentation tout à fait artistique qui a été réalisé par des artistes hollandais, les frères Kenis, qui ont fait une reconstitution du spécimen en partant du squelette que nous avions proposé, en lui donnant une posture artistique, puis en reconstituant après tous les tissus musculaires, en essayant de garder des proportions logiques, correctes par rapport aux proportions corporelles. Mais vu que notre spécimen déjà avait des proportions un petit peu différentes de par le fait qu'il était vraiment bien proportionné par rapport au spécimen, le résultat final donne un néandertalien qui a une allure qui est assez différente des autres constitutions artistiques qui, elles, se basent uniquement sur de l'interprétation. Là, on est parti sur des choses scientifiques plus robustes et ils ont obtenu un résultat un petit peu différent, qui visuellement est vraiment intéressant. Scientifiquement, évidemment, ce n'est qu'une reconstitution, mais c'était un joli projet.
Est-ce qu'il vous arrive, Antoine Balzo, de rencontrer des étudiants, peut-être de les former aussi à la paléanthropologie ?
Pas mal, puisque au muséum, on a la chance d'avoir une formation de master. Alors chez nous, c'est surtout en préhistoire. On a un module, une partie du master du muséum est dédiée à la préhistoire. Et dedans, on propose une formation en paléoanthropologie. Mais on a aussi l'opportunité de recevoir des personnes à différents niveaux, des stagiaires depuis la troisième, des stagiaires dans différentes disciplines, même des étudiants qui viennent d'autres formations, des étudiants de master des autres universités qui viennent faire des petits stages chez nous, des post-doctorants, donc vraiment des gens de différentes régions, de différentes origines et de différents niveaux pour se former à la paléoanthropologie.
Et alors quand ils vous demandent, Antoine Balzo, quelles sont les qualités que doit avoir un paléoanthropologue ? Qu'est-ce que vous leur répondez ?
En fait, il y a presque une question préalable à ça, malheureusement, en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est assez difficile d'arriver à poursuivre des travaux de recherche en thèse. Et puis après, arriver à avoir un poste aujourd'hui, ça devient relativement compliqué, en particulier dans des disciplines comme la paléoanthropologie, qui n'ont aucune application évidente dans le commerce ou dans la société civile. On peut difficilement trouver une manière de produire quoi que ce soit d'autre que de la connaissance en paléoanthropologie. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, ce qui fait qu'il y a vraiment très peu de place, peu de débouchés, très peu de recrutement. Ça tourne autour de 1 tous les ans, voire tous les 2 ans en paléoanthropologie en France.
Vous savez combien il y a de paléoanthropologues en France ?
C'est délicat parce que on est peu nombreux, c'est certain, mais sur des thématiques qui sont parfois à cheval sur d'autres disciplines aussi. Donc ça se compte peut-être entre 15 et 30 en France. Donc voilà, les possibilités, c'est à peu près 1 à 2 par an ou tous les 2 ans. Donc il faut une bonne motivation, c'est certain. En avoir vraiment envie et puis se donner les moyens, être curieux sûrement, pour essayer aussi de se poser les bonnes questions quand on essaye de faire de la recherche. Parce que justement, on est sur une discipline particulière avec peu de spécimens, fragmentaires. Donc c'est une approche un petit peu différente par rapport à des sciences où on peut avoir des corpus très très grands, où finalement il est assez facile de trouver une question assez intelligente à se poser et surtout un matériel conséquent à analyser. Là, il faut essayer de trouver les bonnes questions qui s'adaptent aussi à des matériels qui sont vraiment particuliers.
Eh bien, merci beaucoup Antoine Balzo de nous avoir éclairé donc sur cette profession de paléanthropologue que vous exercez au Muséum National d'Histoire Naturelle. Merci à vous.
Merci.
Je rappelle que vous avez aussi écrit un livre, La préhistoire chronique de l'homme, c'est ça, aux éditions Chronique et CNRS ?
Oui. Et puis, je vous conseille aussi le numéro de mai-juin des dossiers d'archéologie sur Homo sapiens, mai-juin de cette année, qui était un recueil d'articles donc sur Homo sapiens, dont j'étais le conseiller scientifique. Et surtout, on a eu la volonté d'essayer de mettre ensemble des informations très à jour sur les connaissances sur Homo sapiens, d'être vraiment au fait des dernières découvertes, aussi bien en termes d'évolution humaine que pour l'outillage ou pour l'art, et d'apporter des éclairages un petit peu originaux, pas traiter les mêmes thématiques que d'habitude, essayer de donner quelques informations un petit peu nouvelles dans cette revue.
Merci à vous, Monsieur Balzo.
Merci.